France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Nicolas Glouganski.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bienvenue sur France Musique, vous serez ce soir avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck à la cathédrale de Laon dans le cadre du Festival de la Ville. Et puis demain à 20h, retour ici à l'auditorium de la Maison de la Radio pour un concert diffusé en direct sur France Musique. Nicolas Glouganski, vous et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, finalement c'est étonnant mais c'est une première.
C'est drôle mais ça va être le premier concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. J'ai joué avec presque toutes les orchestres de la France, j'ai beaucoup avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National, Toulouse, Lyon, mais au PRF c'est première soirée ensemble.
Alors, il faut apprendre à se connaître. Comment on sait quand ça se passe bien entre des musiciens d'orchestre et le soliste et
oui,
le pianiste? Comment on sent les choses?
Oui, je pense ça va bien, mais nous allons voir ce soir. Mais je connais notamment le maestro. J'ai écouté Mikko Franck. J'ai écouté quelques concerts et je connais quelques musiciens de l'orchestre à l'avance, mais avec l'orchestre, c'est vraiment première, c'est intéressant.
Vous trouvez que c'est un orchestre qui sonne français, qui a un son français? Ça existe encore pour vous?
Oh, c'est toujours difficile à dire, mais pour moi, c'est français, oui. C'est toujours, beauté de sonorité, c'est très, très raffiné. Normalement, c'est pas très lourd, mais c'est toujours grande différence entre répétition et concert. Je suis très curieux comment ça va passer. J'espère que ça va bien.
La musique française, elle est sur votre dernier disque, Claude Debussy. C'était la saison dernière. Votre premier disque chez Harmonia Mundi, votre nouveau label, label français. Voici Le Passe-Pied de la suite Bergamasque.
Thank you.
Claude Debussy, le passe-pied de la suite Bergamasque, extraite de votre dernier disque, Nikolaï Louganski, votre premier de musique française.
Oui, c'est ses premières CD et je suis actuellement très heureux de finalement enregistrer musique de Claude Debussy, qui est un des plus grands génies de l'histoire de musique, naturellement.
Ce soir, allant demain à l'auditorium de la Maison de la Radio et en direct sur France Musique, vous jouerez le deuxième concerto pour piano de Prokofiev, c'est que vous avez choisi, donc sur les cinq composés par le compositeur russe. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce concerto-là, pour vous?
Il y a beaucoup de choses qui sont très particulières sur ce concerto. C'est un des plus tragiques, musique tragique de Prokofiev, qui est normalement, qui était assez optimiste, très normal, pour les Russes, presque sans sentimentalité, sans nostalgie. Il était la personne qui, vraiment, psychologie de Prokofiev est très, très simple. Il est sans cette réflexion comme Tchaïkovski ou Rachmaninov ou Shostakovich. Mais ce concerto très tragique, c'est sol mineur, et des musiques Prokofiev, peut-être le plus proche à l'époque romantisme. C'est aussi le facteur pour piano, c'est un des plus grandioses musiques pour piano qui écrit les cadences, spécialement la cadence de premier mouvement, et utilisation de pédales pour Prokofiev. Il y a beaucoup, beaucoup de pédales sur ces tonalités en mineur. Et quatre mouvements.
Ce qui est assez rare.
Assez rare, oui. Mais il y a naturellement quelques concertos, Brahms 2, le plus fameux, mais aussi Prokofiev 2, c'est un concert grandiose. La raison, c'était son ami, le nom était Schmidt-Goff, probablement d'origine allemande, son ami qui a fait suicide, c'était 1912, et c'était un des influences de tragédie dans sa musique.
Aujourd'hui, en 2019, Nikolaï Louganski, comment il est perçu, Prokofiev, en Russie?
Naturellement, c'est un des plus grands compositeurs de la Russie, parmi peut-être 4-5 compositeurs qui sont beaucoup, beaucoup joués, avec Tchaïkovski, Rachmaninov, Shostakovich, et puis c'est déjà difficile à dire qui est plus populaire, Moussorgski ou Borodin. Mais je peux répéter, parmi tous les compositeurs russes, Glinka était aussi très, comment on dit, classique et comme musique de soleil, mais c'est moins connu dans le monde. Et Prokofiev était très direct, très actif, très brillant. Et douter, c'était pas pour Prokofiev. Il était le personne qui aime action.
Enregistrer de la musique française comme vous venez de le faire, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour, en tout cas au disque, de la musique russe, ou que vous vouliez faire une pause, ou passer vraiment à autre chose?
Vous savez, les disques, naturellement, ça sonne comme c'est l'histoire de la vie, le pianiste, mais c'est en petite partie. Parce que chez moi, je joue beaucoup, beaucoup de musiques différentes. Et maintenant, je suis assez occupé avec musique de Beethoven. Je vais dans mon prochain enregistrement, ça va être trois des dernières sonates de Beethoven. Maintenant, je joue juste 7 jours Prokofiev 2, mais je vais étudier deuxième sonate de Glazounov. J'ai déjà dit les
Il y a encore des choses de que vous n'avez jamais joué, étudié.
Oui, jamais joué. C'est ce deuxième Glazounov. Par exemple, Debussy, sur le disque Debussy des Estames, ça a seulement pièce Jardin sous la pluie, mais je vais jouer tous les trois pièces cette saison.
Prokofiev, ce soir et demain soir, le deuxième concerto avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et maintenant, ce matin sur France Musique, la quatrième sonate, le final. Prokofiev, quatrième sonate, le final, par Nikolaï Louganski, notre invité ce matin sur France Musique. Vous êtes ce soir à Laon, à la cathédrale, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dans le deuxième concerto de Prokofiev, et puis demain, à la Maison de la Radio, et en direct sur France Musique. Jouer dans une cathédrale, ça change quelque chose pour vous ?
Normalement, c'est assez confortable. Et normalement, à la cathédrale, il y a beaucoup d'acoustique.
Vous parlez de l'acoustique. Il y a aussi le climat, l'ambiance.
Oui,
l'esprit du lieu.
C'est toujours c'est un sentiment que vous avez cette sonorité énorme, espace de son est incroyable. Normalement, ça aide, mais on doit juste être assez exact avec beaucoup d'articulation pour avoir attaque qui est assez claire. Je peux dire que je pense que la cathédrale et salle de Radio France sont acoustiques presque opposites, au contraire, parce que à la maison de radio, assez clair, un petit peu sec, très exact. On doit jouer un petit peu différent ce soir et demain soir.
Est-ce que, Nikolaï Louganski, entre un concert en France et un concert en Russie, il y a une différence dans l'accueil du public, dans le déroulé, le climat?
Vous savez, j'ai toujours un petit peu peur de faire les sentences qui sont toutes les choses ensemble. Peut-être il y a le public pour le rock concert.
Ne pas généraliser.
Oui, généraliser, c'est très dangereux et peut-être un peu. Très souvent, c'est très stupide. Mais il y a des choses différentes. Par exemple, en Russie, on donne beaucoup plus souvent les fleurs après le concert. En France, en Europe, c'est beaucoup moins populaire. Mais je ne peux pas dire quel public est plus chaleureux. À Paris, parfois, c'est le public à grande température, c'est très chaleureux. Je pense, je joue pour les personnes, pas pour le public général, mais pour les personnes. Chaque personne peut être un seul auditeur de concert.
Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices ce matin sur France Musique qui doivent se dire comment a-t-il appris le français ?
Oh, j'ai jamais appris le français. La première fois, c'était mon premier pays que j'ai visité. C'était 1988. C'était l'époque de l'Union soviétique. J'ai joué première fois à Cannes. J'ai parlé un petit peu allemand. C'était mon seul langue étrangère. Et depuis ça, je viens régulièrement en France. Et spécialement il y a 25-30 ans, il y avait beaucoup de Français qui ne voulaient pas parler anglais. Maintenant, presque tout le monde parle. Mais là-bas, je dois essayer de parler français, mais vous pouvez comprendre, j'ai aucune expérience d'apprendre français. Écrire français pour moi, presque pas possible.
Nikolaï Louganski en concert ce soir avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour la première fois. Sous la direction de Mikko Franck, le deuxième concerto de Prokofiev ce soir à Laon, demain à la Maison de la Radio et en direct sur France Musique. On se quitte avec le compositeur qui restera toujours le plus cher à votre cœur, Rachmaninov.
Oui.
Merci Nikolaï Louganski, vous voici jouant Rachmaninov.
Thank you.
Rachmaninov, le prélude opus 32 numéro 12 avec Nikolaï Louganski au piano et donc en concert ce soir à Lens, demain à la Maison de la Radio avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Bonjour Michel Aurier.
Bonjour.
Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France. Hier soir, c'est l'Orchestre National de France qui a fait sa rentrée sous la direction d'Emmanuel Krivine. Un concert Berlioz à l'Auditorium avec Marie-Nicole Lemieux qu'on peut réécouter sur francemusique.fr. Des concerts archi-complets comme souvent maintenant, même s'il y a souvent des places, mais il y a eu vraiment un bond énorme de fréquentation depuis 5 ans, depuis l'ouverture de l'Auditorium.
Oui, je crois que c'est la grande réussite de la maison que d'avoir réussi à faire émerger cette salle magnifique, qui est vraiment un lieu de musique assez unique. Enfin, c'est vrai qu'on dit chez nous qu'on rentre au cœur du concert parce qu'on a cette salle qui permet de rentrer au cœur de l'orchestre. On a une telle proximité, on a vraiment l'impression d'être de faire partie de cet ensemble qui est en train de jouer, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille d'ailleurs, parce que c'est une salle dans laquelle on est aussi bien pour écouter ce qu'on a entendu hier avec la Symphonie Fantastique et l'Orchestre National de France que pour aller écouter le Quatuor d'Ultima ou les différents ensembles en résidence qu'on a, parce qu'il y a cette qualité acoustique qui est quand même vraiment formidable.
Quand on découvre cette salle, on y revient. Alors, nouvelle saison, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année si on veut écouter de la musique à la Maison de la Radio?
Ce qui est nouveau à chaque fois, c'est évidemment notre façon d'aborder des répertoires. Alors évidemment, il y a toute la part de création qui est très importante, hein, puisqu'il y a 41 œuvres qui seront créées
au cours de la saison.
Mais au-delà de ça, ce qui est nouveau, c'est aussi notre façon, enfin, ce qu'on essaie de faire pour découvrir, d'avoir un angle un peu particulier à chaque fois pour aborder les répertoires. C'est notamment le cas, vous parliez du Philharmonique tout à l'heure, l'Orchestre Philharmonique de Radio France conçoit maintenant ses programmes avec des œuvres qui peuvent aller de tout petits ensembles de musique de chambre jusqu'à la grande formation symphonique dans le même programme. Donc ça, c'est une façon d'aborder les choses. Au-delà de ça, on essaie d'avoir à chaque fois... alors évidemment, il y a des thématiques de saison. On termine l'année Berlioz, puisque c'était le 150e anniversaire de sa disparition cette année. On va rentrer dans l'année Beethoven en 2020. Alors évidemment, il y aura beaucoup de Beethoven un peu partout. Nous, ce qu'on a choisi, par exemple, sur l'année Beethoven, c'est plutôt de mettre l'accent sur les années de Bonn, c'est-à-dire le jeune Beethoven. On va donner ce concerto numéro 0, enfin le premier concerto qu'il ait écrit pour piano à l'âge de 13 ans, je crois. Voilà, donc on a... alors évidemment, on jouera sur Beethoven. On va jouer la 5, la 7, la 9. On va jouer...
La 9, c'est presque une tradition dans la maison maintenant.
C'est une tradition dans la maison. Là, on va même faire une incartade à cette espèce de dogme qu'on s'est donné, puisqu'on va la jouer deux fois. Une fois dans l'interprétation qu'en donnera l'Orchestre National sous la baguette d'Emmanuel Krivine, et puis une autre fois, puisque chaque année, la tradition maintenant, c'est que le Philharmonique donne pour le premier de l'an la 9e de Beethoven.
Il y a les grands concerts symphoniques, mais il y a également énormément d'autres choses. Parfois, on n'a pas ça en tête. Il y a des concerts le midi, de musique de chambre ici. Il y a du jazz. Il y a tout ça aussi. C'est ça, la musique à la radio,
oui,
à la Maison de la Radio.
Oui, parce que alors on a la chance d'avoir 4 formations musicales, 2 orchestres, un chœur, une maîtrise, qui sont vraiment de très très haut niveau. Mais une salle, un auditorium, et puis la Maison de la Radio, c'est aussi nos 7 antennes, c'est pour France Musique le lieu de travail et d'enregistrement, de convocation des artistes, et donc il y a forcément une diversité qui est inscrite dans l'ADN de la maison. Et donc c'est logique qu'on ait une saison de musique baroque. Hein. Je suis très content d'ailleurs que Marc Minkowski redonne une version d'Ario Dante chez nous, avec les musiciens du Louvre. On a un orgue qui est absolument formidable. Et donc on a un jeune organiste en résidence en la personne de Karol Mosakowski. Et donc une série de concerts d'orgue. Vous avez parlé du jazz. On va ouvrir samedi avec un très très beau concert avec une double affiche avec Das Kapital et Boyan Z dans le studio 104, puisque maintenant tous les mois il y a dans le studio 104, qui est l'autre grande salle de la maison, une programmation de concerts de jazz. Voilà, et puis une très belle programmation aussi autour du piano, autour du quatuor, puisque On a la chance d'avoir les Diotima chez nous. On va en parler de Beethoven tout à l'heure. On va donner les 6 derniers quatuors de Beethoven par... enfin, on va donner le quatuor Diotima va interpréter les 6 derniers quatuors de Beethoven. Donc on a, voilà, on a une saison qui est très, très riche, très variée et qui est très ouverte.
Pourquoi des ensembles en résidence d'ailleurs?
Parce que je crois que ce qui fait la différence entre la maison de la radio et d'autres lieux qui peuvent exister, c'est qu'ici c'est vraiment un lieu où les artistes peuvent venir poser des projets et les développer de façon un petit peu protégée. On est moins exposé dans les processus de recherche, etc. Alors après, évidemment, on les enregistre, on les donne à entendre de façon très large, etc. Mais il y a cette espèce de creuset qui existe ici depuis toujours, que ce soit d'ailleurs sur des choses plus expérimentales comme ce qui a pu exister autour de Pierre Schaeffer du GRM. Mais donc, enfin, voilà, on a voulu, et puis on a nos quatre ensembles, nos quatre formations musicales qui sont eux aussi des creusets de résidence. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir de pouvoir approcher des gens comme Mathias Görne, Barbara Hannigan, etc., c'est bien de leur dire, bon ben voilà, si vous avez envie de travailler avec nos musiciens, sachez qu'ils ont envie de travailler avec vous et vous pouvez développer tout un projet sur le long terme. Et ça donne une autre relation aux artistes, une autre profondeur à la musique et donc une autre relation au public.
Des ensembles en résidence, des artistes aussi. On avait Leonardo Garcia Alarcón qui était à votre place il y a quelques jours, grand chef baroque et qui dirige aussi l'orchestre moderne, philharmonique de Radio France. Dernière question, Michel Aurier, vous parliez de la spécificité de la maison de la radio. Entre nous, il y a une concurrence entre la Philharmonie de Paris et ici, ou une saine émulation, disons?
Non, moi je dirais qu'il y a une belle complémentarité. Alors, elle est parfois pas facile à installer, elle est compliquée sur certains aspects, mais elle fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement que la Philharmonique a été un pari extraordinaire qu'a porté Laurent Bell avec énormément de talent, marche du feu de Dieu. L'auditorium, qui a été aussi un vrai pari, marche très très bien. La scène musicale a fait aussi un certain nombre de choses. Le Châtelet vient de réouvrir, le Théâtre des Champs-Élysées, etc. Tout ça fait qu'on a une capitale mondiale, j'ai envie de dire.
Il n'y a pas trop de salles.
Non, je ne le sens pas du tout comme ça, en tout cas. Il y a beaucoup de public et je pense que notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de public qui s'approprie ce patrimoine.
Venez à la maison de la radio, écoutez de la musique et sur France Musique également. On se quitte avec le quatuor Diotima, quatuor à cordes en résidence à la maison de la radio dans cette musique du Stéphanois Georges Onzelot. Extrait de ce quatuor à cordes numéro 28 de Georges Onzelot, très productif. C'était le quatuor Diotima. Demain, nous serons normalement à Strasbourg si on trouve un train France Bleu Alsace en direct pour le festival Musica, c'est l'ouverture avec beaucoup d'invités, notamment le nouveau patron Stéphane Roth, mais également le pianiste Willem Latchoumia et la comédienne Éléonore Ozoukoun. Au générique, il y avait Salomé Koch, Marion Guillemet, Margot Muller, José Bernès, Ludovic Augier et Yacine Bouzard. Quant à la réponse à la question que je vous posais, si je m'en souviens, la bonne réponse était Jeanne Moreau qui n'a jamais chanté la chanson « Que serais-je sans toi » de Jean Ferrat. Parole de Louis Aragon. « Que serais-je sans vous ?» Émilie Munera, Rodolphe, Bruno Boulmier, bonjour.
Oh, Jean-Baptiste, ça fait longtemps qu'on se le demande, mais bon.
Vous seriez Jean-Baptiste Urbain.
C'est déjà pas mal, hein, franchement.
Parce que c'est vous, parce que c'est moi.
Alors Marie-Nicole Lemieux était chez vous la semaine dernière.
Oui, et hier soir
dansé,
à la radio.
Et hier soir à la radio, tout à fait. Bien, elle sera ce matin dans mon piste, vous avez vu. Elle
n'aura
pas beaucoup dormi. Et même, on vous offre son dernier disque.
Ah, moi je l'ai déjà.
Bon bah oui, mais ça je m'en
douterais
bien, mais oui, soyez pas égoïste.
Très altruiste. À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.